France Musique. Musique et moi.
Jonathan Freund.
Priscille Lafitte. France Musique.
J'avais lu dans la biographie de Mahler par Henri-Louis de Lagrange que la première fois que Mahler avait entendu le jeune Schoenberg, il était sorti en disant « J'ai rien compris, mais il est jeune, il doit avoir raison ».
Bonjour, Jonathan Freund.
Bonjour.
Merci de répondre présent à l'invitation de Musique et moi sur France Musique ce matin. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital La Salpêtrière à Paris. Vous êtes professeur de médecine d'urgence à la Sorbonne. Comment allez-vous ce matin ?
Je vais très bien, merci. Je suis très honoré, très content d'être invité dans cette émission.
Vous êtes devenu une voix médiatique dans la pandémie actuelle. En rendant accessible votre expertise médicale face au virus du Covid-19. Et vous êtes aussi mélomane, c'est pour ça que vous êtes ici avec nous ce matin. Et si j'ai choisi de débuter cette émission avec les années de pèlerinage de Franz Liszt, c'est la première année, la Suisse, au lac de Wallenstadt, sous les doigts de Bertrand Chamaillou. C'est que je crois que c'est une musique qui vous accompagne à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce que vous travaillez? Comment vous travaillez?
Donc moi je travaille à la Pitié-Salpêtrière aux urgences, donc ma fonction fait que je suis la moitié du temps avec les malades aux soins et l'autre moitié du temps donc je fais de la recherche, de l'enseignement et donc ça c'est du travail plutôt de bureau, surtout en ce moment où on fait tout à distance et c'est vrai que depuis toujours j'ai toujours travaillé en musique, il me fallait toujours de la musique pour que je travaille, je sais pas, je me concentrais mieux et c'est vrai que ces derniers temps pour écrire par exemple, pour travailler, je mettais régulièrement les années de pèlerinage, alors ça dure longtemps, comme ça me permet d'avoir une bonne lancée sur le travail, et c'est quelque chose qui m'accompagne assez souvent ces derniers temps.
C'est un échappatoire, Liszt, un peu ?
Liszt, bon, ça fait rêver, bien sûr, mais paradoxalement, je sais pas, ça m'aide à me concentrer. une partie de mon cerveau qui est, je sais pas, qui écoute liste et le reste est assez concentré.
Et vous l'écoutez comment? Sur un portable, sur des oreillettes?
Non, j'ai des enceintes, j'ai fait installer dans mon bureau de quoi écouter de la musique de manière correcte.
Alors,
c'est
ça,
pas extraordinaire, mais ouais. c'est déjà ça.
Ça vous coupe un peu du brouhaha de l'hôpital? Est-ce que c'est bruyant un hôpital d'ailleurs?
Un hôpital, c'est très bruyant, surtout là où on travaille, où on a des sollicitations permanentes, beaucoup de bruit, effectivement, beaucoup d'interactions. Mais quand on se met dans son bureau, quand on travaille, on coupe complètement. Enfin, on essaye en tout cas.
Jonathan Freund, est-ce que vous faites aussi entendre de la musique à vos patients? Vous nous avez dit que vous écoutiez de la musique seul dans votre bureau pour la recherche. Mais est-ce que ça, vous pouvez partager cette passion avec vos patients?
Ça m'arrive, c'est assez récent que j'ai découvert ça. C'est-à-dire que dès que j'ai des interventions à faire, des petites, hein, je suis aux urgences, que ce soit des sutures, je sais pas, des plâtres. Dès qu'on a un petit moment comme ça, qui est un moment un peu angoissant, où il peut y avoir un peu de douleur, au moins de l'appréhension, je propose toujours aux patients de passer leur musique. Ils ont tous un téléphone, tous leur musique. Et régulièrement, ils me disent, je sais pas quoi mettre, mettez ce que vous voulez. Et donc là, je peux choisir. Et donc, ça me permet d'en passer un peu.
Vous choisissez quoi ?
Ça dépend vraiment de l'humeur. En général, évidemment, plutôt quelque chose de calme. Je ne vais pas leur mettre un gros coup de Bruckner, mais plutôt quelque chose comme ça, un peu comme ce qu'on vient d'entendre typiquement.
Est-ce que ça a des effets, vous pensez, sur...
Oui, j'ai l'impression...
Sur la douleur ?
On parle beaucoup de la distraction dans la douleur, la distraction qui permettrait de diminuer les douleurs, d'attirer l'esprit ailleurs plutôt qu'à traiter l'information de la douleur. Donc, en tout cas, ça a des effets sur le côté apaisant, je crois, et ça aide sur l'appréhension des patients.
C'est drôle de parler de la musique comme distraction alors que vous l'écoutez très sérieusement.
Très sérieusement, mais pas forcément tout le temps. Ça peut être vraiment une distraction, quelque chose en fond aussi. Je suis pas extrêmement comme ça à sacraliser absolument dès qu'on entend une note de musique. Ça peut s'écouter même au milieu du brouhaha, même avec un mauvais appareil. Moi, j'écoute la musique sous toutes ses formes, vraiment.
La 25e des variations Goldberg, sous les doigts de Glenn Gould, c'est un enregistrement de 1954. Jonathan Freund, dans quel recoin de votre enfance est-ce que cet enregistrement vous plonge ?
Là, je suis en train de prendre mes cornflakes. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner chez moi. Et mon père passe les variations Goldberg sur sa jolie chaîne, comme à peu près tous les matins. Alors, je suis sûr que c'est un souvenir un peu construit, un peu transformé, mais c'est vrai que j'ai quand même ce souvenir de mon père qui se levait avant, qui prenait son café, en écoutant Bach, en écoutant Glenn Gould, parce que de toute façon, il n'y a que Glenn Gould qui peut jouer Bach. Et donc, c'était vraiment ça, c'était pour moi l'image du matin, quand je me levais.
Et vous l'aimiez, cette ambiance-là, enfant ?
Ça ne me dérangeait pas. Mais probablement que je trouvais ça un peu répétitif et pas forcément extrêmement entraînant le matin. Mais non, j'aimais beaucoup la musique déjà tout petit, donc oui.
Vos parents sont musiciens ?
Mon père, alors ils sont mélomanes, et mon père fait du violon et de l'alto de manière amateur dans les orchestres, mais depuis toujours pour moi.
Et vous ?
Moi aussi, moi je fais du piano, je faisais de la clarinette aussi, mais ça j'ai abandonné malheureusement à mes 18 ans. Et là je fais du piano, j'ai pu reprendre récemment après 5 années ou 10 années pendant mes études où j'ai arrêté.
Et vous avez commencé quand dans l'enfance le piano ?
Je crois qu'on m'y a mis à 4 ans, 4-5 ans, et j'ai tout de suite apprécié.
Est-ce que vous avez grandi dans une lignée de médecins ? Est-ce que vous...
Pas spécialement, ma mère est médecin généraliste. Est un très bon médecin généraliste qui s'intéresse beaucoup à ses patients, donc ça donne envie, mais pas spécialement. On a grandi dans un milieu intello, de gauche, 68ard, vous voyez.
Parisien.
Parisien, tout à fait.
Et vous m'avez dit qu'Alain Planès a compté comme pianiste pour vous dans l'enfance. On l'écoute et vous allez nous raconter ça.
Thank you.
c'est l'île joyeuse de Debussy sous les doigts d'Alain Planès. Expliquez-moi comment vous avez découvert le monde d'Alain Planès.
Eh ben, c'est une chance inouïe. Alain Planès habitait dans notre cour. Il avait un appartement au rez-de-chaussée. Donc, j'avais qu'à traverser la cour et être chez lui. Donc, on l'entendait répéter. Donc, c'était un ami tout de suite de la famille. Et donc, petit, j'allais régulièrement chez lui. Je me mettais dans un coin. Je l'écoutais répéter. On discutait des heures. Et c'est vrai que lui, il m'a fait rêver aussi sa façon de jouer. Et depuis, on s'est pas quitté. Et je le suis sur tout ce qu'il crée régulièrement, de Schubert à Debussy, en passant par Haydn et tout ce qu'il a pu faire.
C'est fascinant ça, d'être sous le piano d'Alain Planès. Il avait un grand piano chez lui.
Il avait un piano qui devait être, j'imagine, un demi-queue. Alors c'est des souvenirs, encore une fois, il y a 30-35 ans. Hein. Mais oui, c'était extraordinaire de l'entendre déjà quand on était dehors. Et puis de rentrer chez lui, tout le monde s'entendait très bien. C'était une cour un petit peu où il y avait des artistes dans notre propriété, la copropriété. Il y avait des artistes, des pianistes, des chanteurs. Et il y avait toujours de la musique en fait. On a vraiment baigné dans la musique, dans cet environnement.
Vous l'entendiez travailler, quotidiennement ?
Bien sûr, travailler, répéter. Au-dessus de lui, il y avait Claude Lavoie, une pianiste qui accompagnait les chanteurs. Donc on l'entendait répéter, on entendait tous les chanteurs qui venaient chanter régulièrement. C'était génial d'avoir ça.
Et vous, ça vous a motivé pour travailler votre piano ?
Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Vous aviez un piano droit chez vous ?
On avait un piano droit, un piano d'études, oui. Mais c'était très bien, faut dire, pour mon niveau, c'était parfait.
Vous avez joué et appris et étudié le piano jusqu'à quel âge ?
Eh ben, j'ai fini le conservatoire, je suis allé jusqu'au concours d'entrée en supérieur, diplôme de fin d'études, comme ça s'appelait à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais donc j'ai dû faire le conservatoire de mes 5 à mes 17 ans à peu près.
Ouais, vous avez pensé à devenir professionnel ? C'est quelque chose qui vous a effleuré ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tout de suite, je savais que j'avais pas le niveau. Quand j'allais dans au cours de piano, je voyais très bien les autres étudiants qui avaient le même âge que moi et qui étaient vraiment d'un niveau qui était incomparable. Donc non, c'était pas du tout une option pour moi.
C'était pas un fantasme.
Non.
Et quand est-ce que vous avez accroché avec la musique au point d'acheter un disque pour vous-même, que ce soit pas le disque de papa?
Je crois que c'était, je devais avoir 17 ou 18 ans. C'est la première fois que je me suis acheté un album. Alors, je n'arrive pas à savoir pourquoi j'ai acheté celui-là. J'avais acheté la 3e et la 4e symphonie de Mendelssohn. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a fait que je l'ai acheté. Je suis tombé sur ce disque, je sais pas, on me l'a conseillé ou autre. Et je suis rentré, je l'ai passé, je l'ai découvert quasiment, je pense, quand je l'ai acheté. J'essaye de me souvenir pourquoi j'ai acheté celui-là. En tout cas, je sais que c'est le premier disque que j'ai acheté. Et donc, ce premier mouvement de l'écossaise, c'est incroyable. Chaque fois que je l'écoute, pour le coup, ça fait quelque chose.
On va écouter la version enregistrée par Herbert Blomstedt à la tête du Gewandhaus de Leipzig.
Thank you.
Un extrait de la troisième symphonie de Mendelssohn. On entendait l'andante con moto. C'est Herbert Blomstedt qui dirige le Gewandhaus de Leipzig.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Le médecin urgentiste Jonathan Freund est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous nous disiez que vous aviez acheté un disque avec les symphonies 3 et 4 de Félix Mendelssohn à l'âge de 17-18 ans. C'est à peu près l'âge où vous avez décidé de devenir médecin. C'est cet âge-là de l'orientation ?
Non, pas du tout. En fait, médecin, ça s'est fait bien plus tard. Au départ, j'étais parti pour être ingénieur ou chercheur, faire des maths ou de la physique. Donc j'ai fait des classes préparatoires, puis après j'ai fait de la physique. Et c'est que 5 ans plus tard, donc à 23 ans, que je me suis dit si je faisais médecine finalement. Et un peu sur un coup de tête, de manière extrêmement précipitée, je me suis retrouvé en médecine en quelques jours plus tard.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est très compliqué. Pareil, je pourrais pas vous le dire. Je pense que la vie de chercheur à plein temps dans un bureau ou dans un labo, ça me convenait pas spécialement et que, je sais pas, peut-être j'avais besoin d'un peu d'action ou de contact avec les gens.
Est-ce que vous avez fait un peu d'analyse musicale pendant ces années-là ?
J'en ai fait uniquement en terminale quand j'ai pris l'option musique au bac. Et donc là, je l'ai fait sans aller en cours, mais en prenant les manuels, et c'était absolument passionnant. J'ai découvert quelque chose d'analyser une œuvre. Alors en particulier, c'était la quatrième symphonie de Brahms, le dernier mouvement, et donc était décortiqué, analysé, et du coup, en l'écoutant après, c'est plus du tout pareil. Donc ça, c'était passionnant, mais je l'ai pas refait au-delà, c'est dommage.
Thank you. Jonathan Freund, vous vous souvenez plus précisément de ce que vous aviez découvert dans cette œuvre à l'époque ?
J'avais découvert l'articulation globale, j'ai découvert ce que c'est qu'une chaconne, donc la différence avec un thème et variation, donc cette chaconne qui se répète en continu, ces 8 mesures qu'on retrouve un peu partout, et le thème qu'on arrive bien à retrouver à chaque fois, les deux parties, la coda qui finit dans un feu d'artifice. Oui, je me souviens très bien, je crois que je connais toutes les notes de ce mouvement en tout cas.
Vous avez une approche plutôt analytique ou émotionnelle de la musique ?
Oh non, émotionnel pur, hein, bien sûr. Ça, c'est bon, l'analyse, je l'ai fait une fois, c'est très intéressant, mais maintenant, moi, je pense que c'est immédiat, on ressent des choses.
Le dernier mouvement de la 4e symphonie de Brahms, c'est Thomas Engelbrook qui est à la tête de l'orchestre de la Philharmonie de l'Elbe. La Philharmonie de l'Elbe qui a été construite récemment à Hambourg. Et vous, Jonathan Freund, quelles sont vos salles de concert préférées? Est-ce que vous, il y en a certaines dans lesquelles vous avez vos habitudes?
J'habite dans le 10e, donc c'est vraiment tout près de la Philharmonie. Et je vais quasiment que là. Il y a tout ce qu'on peut rechercher là-bas, ou alors éventuellement la Cité de la Musique à côté, quand c'est des formations plus petites. Mais effectivement, deux, trois fois par mois, avant cette période épouvantable, au moins, on pouvait y aller tout le temps. Et ça, ou l'Opéra de Paris, en gros.
Vous avez le temps de vous rendre au concert entre la vie à l'hôpital, une vie familiale, je crois?
Bah oui, je le prends le temps, en tout cas. C'est indispensable. Et puis, on a le temps, on a toujours le temps. Le soir, on a toujours le temps.
Vous allez au concert pour oublier ou pour réfléchir?
Non, ni l'un ni l'autre. J'y vais parce que, je sais pas, parce que c'est beau, simplement, parce que c'est un moment extraordinaire. C'est vrai qu'on sort un peu de tout le reste. Les portables sont coupés. On est là pour deux ou trois heures. Et c'est merveilleux.
C'est un temps de concentration?
Temps de concentration. Alors peut-être effectivement aussi un temps d'échappement, mais un temps indispensable vraiment. Pour supporter tout le reste, oui.
Est-ce qu'écouter les patients, ça requiert les mêmes qualités que pour écouter de la musique? Est-ce qu'il faut être analytique? Est-ce qu'il faut écouter ses émotions?
C'est compliqué, je pense qu'il y a vraiment les deux. On est analytique parce que quand j'écoute mes patients, c'est surtout au départ pour leur donner les meilleurs soins et en savoir le plus sur eux. Mais effectivement, moi je me laisse très souvent aller à l'émotion, et quand quelqu'un me raconte un truc intéressant, on parle plus du tout de ses problèmes. Dès que je vois quelqu'un qui arrive avec un bouquin, je lui demande qu'est-ce qu'il lit. Alors s'il y a un truc qui m'intéresse pas, tout de suite je vais avoir une opinion sur lui. Et si au contraire c'est un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps, on va en parler pendant des heures. Donc effectivement, il y a aussi de l'émotionnel qui rentre et de l'affect.
Vous vous souvenez du dernier concert auquel vous avez pu assister avant le premier confinement déjà?
Alors avant le premier confinement, coup de bol extraordinaire. J'avais réservé pour toute ma famille qui connaissait pas mon œuvre préférée, qui est la deuxième symphonie de Mahler. Et donc j'ai emmené tout ce beau monde. On était 8 pour aller voir ça. Ils connaissaient pas du tout. Certains un peu réticents à voir ces gros machins, et ils ont été absolument conquis, comme moi à chaque fois. Je vais la voir une fois par an dès qu'elle passe. Et ça, c'était avant le premier confinement.
Qui jouait?
C'est une excellente question. C'était l'orchestre de Toulouse, que j'avais pas encore entendu, et c'était extraordinaire.
Thank you. On va pas entendre la totalité de ce Totenfeier de la deuxième symphonie dite Résurrection de Gustav Mahler. Ici, c'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. Jonathan Freund, vous avez eu la chance d'entendre un orchestre dirigé par Abbado?
Oui, oui, j'ai eu la chance de le voir et de l'entendre, je crois, trois fois quand il passait à Paris, dont une fois avec l'Orchestre de Lucerne. Et surtout, la dernière fois que je l'ai vu, donc c'était, il dirigeait la 9e, je crois que c'était encore à la salle Pleyel. Et c'était extrêmement émouvant parce qu'on savait qu'il était malade. La 9e finit sur un filet de son. On ne sait jamais quand elle finit vraiment, quand est-ce qu'on n'entend plus le dernier filet de son et qui est suivi par un temps de silence écrit par Mahler. Donc la salle plongée dans l'obscurité, la salle Pleyel avait diminué les lumières au fur et à mesure qu'on arrivait vers la fin. Donc c'était un moment absolument incroyable sur la fin de cette symphonie où on n'entendait plus rien à la fin. Et Abbado extraordinaire et qui est mort donc quelques semaines ou quelques mois plus tard.
Jonathan Freund, vous qui êtes un grand habitué des concerts, qui êtes féru de musique, est-ce que les salles de concert sont un foyer de contamination? Est-ce qu'on sait ça finalement?
On ne sait pas exactement, mais quand même on a l'impression que les foyers de contamination principaux sont évidemment les choses les plus agréables à faire, c'est-à-dire aller dans les bars, dans les restaurants et dans les salles de concert évidemment. Donc c'est assez dommage, c'est très triste.
Même quand elles sont bien aérées, même quand il y a de l'espacement entre les personnes dans le public?
Je ne peux pas vous dire. J'ai envie de vous dire que non, que ce n'est pas grave, qu'il faut les rouvrir et garder des distances et avoir un protocole très strict. J'espère que ça suffira.
Mais les études ne sont pas précises sur ces lieux-là.
Non, très difficile de savoir précisément. Après, on se doute bien qu'il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus à risque, qui sont autorisées et pas les concerts.
Comme quoi?
Bon, je sais pas, comme le métro, comme beaucoup d'endroits où les gens peuvent se retrouver les uns avec les autres. Mais il est probable que un endroit confiné, fermé pendant 2 heures avec des centaines de personnes, c'est à risque. Alors, est-ce que c'est un lieu, un haut lieu de propagation du virus? Je ne sais pas. Et je pense que pour l'instant, personne ne peut le dire avec certitude.
Vous fréquentez donc la Philharmonie de Paris depuis qu'elle est ouverte. Et l'Opéra de Paris, ça vous intéresse, l'Opéra?
Oui, énormément, bien sûr, l'Opéra de Paris. Alors, je suis pas aussi ouvert à tout le répertoire que je peux l'être pour le reste. Mais oui, l'Opéra de Paris, il y a des choses extraordinaires que j'essaie d'aller voir le plus souvent possible. Je suis extrêmement triste de pas pouvoir voir un bout du Ring que j'attendais depuis longtemps. Je sais pas quand il reviendra.
Mais vous êtes bien au courant que l'intégralité du Ring de Wagner, ce Ring-là enregistré à l'Opéra Bastille, sera diffusé en exclusivité sur France Musique les 26, 28, 30 décembre 2020 et les 2 janvier 2021, ce sera à 20h. Est-ce que vous avez écouté Jonas Kaufmann dans Lohengrin il y a quelques années? Parce qu'on va écouter à l'instant précisément Claudio Abbado qui dirige l'orchestre de chambre de Mahler, Jonas Kaufmann qui chante Infernem Land. Vous étiez là, vous, dans le public à Bastille?
Je l'ai entendu 2 fois, Lohengrin. Quand il est passé, j'ai pris 2 fois des places. Il passait sur 3 semaines ou 1 mois. J'ai pris 2 places pour y aller 2 fois. Il y avait 2 distributions, une avec Jonas Kaufmann, une avec l'autre. Les 2 étaient extraordinaires. Je voulais pas louper Lohengrin, donc je l'ai vu 2 fois en 2 semaines.
Infernem Land, nahe bei mir schritt,
Jonas Kaufmann, bien évidemment, dans l'air Infernem Land, dans le troisième acte de Lohengrin de Wagner.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le médecin urgentiste Jonathan Freund est l'invité de Musique et moi ce matin. Et vous me disiez, pendant qu'on écoutait ce fameux air de Lohengrin, que c'était une bonne entrée dans Wagner. C'est par là, par cet air-là, que vous êtes entré, vous ?
Oui, je pensais que Wagner était insupportable et inaudible, mais l'ouverture de Lohengrin, le prélude, c'est quelque chose de magnifique, bien sûr. Donc j'écoutais tout le temps le prélude, mais juste pour le prélude, et puis régulièrement, j'oubliais de couper, puis j'entendais le début. Au début, je trouve que c'est dur à entendre, ces Allemands qui crient, et c'est toujours un peu difficile, et puis très vite, l'oreille se fait. Et c'est magnifique, et maintenant, j'essaye d'introduire Wagner aux gens que je connais, en général, par Lohengrin, et ça marche plutôt pas mal.
Par cet air-là ou pas particulièrement ?
Cet air qu'on vient d'entendre, non, par Lohengrin en général. Après le voir à l'opéra, quand c'est passé, donc il y a 3 ans à Bastille, j'ai envoyé tous les gens que conseillais ça à tous les gens que je connaissais, et même ceux qui ne connaissaient pas Wagner, effectivement, en voyant ça la première fois, sont conquis tout de suite.
Vous nous aviez dit, Jonathan Freund, dans tout début de cette émission, vous avez cité Malheur, après avoir entendu le jeune Schoenberg pour la première fois, je n'ai rien compris, mais il est jeune, il doit avoir raison. Vous arrivez à un âge un peu de maturité. Quel âge avez-vous d'ailleurs, si je peux vous le demander?
Oui, j'ai 40 ans.
Et vous êtes professeur à la Sorbonne depuis 2 ans. Est-ce qu'on vous donne un peu plus souvent raison maintenant que vous avez atteint cet âge-là?
Non, je pense pas. J'ai un tempérament de dire que j'ai toujours raison, surtout quand je me trompe. Hein. On l'a vu ça récemment.
Mais pourquoi ça récemment?
Parce que récemment, j'étais persuadé, par exemple, que le Covid était terminé en juillet. Et en juin, juillet, je me suis dit qu'il n'y aura pas de retour du Covid.
Il n'y aurait pas de deuxième vague.
Il n'y aurait pas de deuxième vague, pas de flambée. Bon, on a bien vu comme j'ai eu tort. Donc ça ne me dérange pas du tout de me tromper, de le reconnaître après coup. Mais avant, bon, il me faut un peu de temps pour accepter.
À quel moment vous avez accepté cette donnée-là?
En septembre, on s'est rendu compte quand même que moi, je pensais vraiment que la plupart des personnes qui auraient pu être infectées l'avaient été. Bon, en septembre, on a vu que c'était pas du tout le cas. Donc, on a vu petit à petit revenir les mêmes choses qu'on avait connues en février. Et donc, on va pas se leurrer 2 fois de suite quand même.
C'est difficile là, en ce moment à l'hôpital.
Ça y est, on a passé le pic, le cap, le haut de la vague, le tout ce que vous voulez comme image. Donc là, ça redevient tout à fait correct, tout à fait acceptable. Mais il faut savoir quand même que sans faire le pleurnicheur, pour nous aux urgences, c'est toujours difficile. C'est quand même tous les hivers que c'est la crise chez nous. Et la plupart de mes collègues urgentistes vous confirmeront que du point de vue des urgences, la période Covid était certes très dure, mais c'est pas la seule période ou la période la plus difficile qu'on a connue. Je me souviens de la grippe terrible qu'il y a eu il y a 2 ou 3 ans. Ça, c'était pour nous, aux urgences, un challenge encore plus difficile.
Ah oui, je pense qu'on n'a pas cette information-là.
Ouais. Parce que on trouve ça habituel, les gens se sont habitués au fait qu'aux urgences, c'est compliqué. Et on était un peu seuls dans nos complications et dans notre enfer de la crise hivernale des urgences. Or là, pour la Covid, certes, c'était bien pire ce qui nous est arrivé, mais on n'était pas seuls, on avait tout l'hôpital qui nous aidait, on avait vidé l'hôpital des autres patients. Donc d'un coup, notre travail était complètement facilité par tout ce qui avait été amélioré autour.
Vous nous avez dit que vous jouez du piano, Jonathan Freund. Est-ce que cette période... peut-être de suractivité pour vous, a été propice à un retour au clavier?
Non, au contraire, j'ai arrêté de jouer là pendant les 2 mois très difficiles qu'on a eus. Et puis, on devait faire un concert, comme on essaye de faire maintenant régulièrement à la Pitié avec des collègues médecins, qui a été annulé, bien sûr, à cause de tout ça.
Qu'est-ce que vous aviez préparé comme morceau?
Alors, on l'a préparé, on l'a pas terminé. Il faudrait qu'on s'y remette sérieusement. Là, on devait jouer avec ma collègue violoncelliste, troisième sonate pour piano et violoncelle de Beethoven, et un 4 mains avec une autre collègue, les variations, l'andante et variations de Schubert.
Alors, je vous propose d'écouter une fantaisie pour piano à 4 mains de Schubert en fa mineur. Imogen Cooper et Anne Kefelek.
Qu'on a joué d'ailleurs il y a 1 an et demi à la Pitié.
Thank you.
Imogen Cooper et Anne Kefelek dans le premier mouvement, Allegro molto moderato, de cette fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur de Franz Schubert. Jonathan Freund, vous avez joué plusieurs pièces, je crois, de Schubert dans l'enceinte de la Salpêtrière. C'était des concerts entre vous, entre médecins? C'était des concerts pour les patients?
C'était entre médecins, pour les collègues, pour les amis. C'était donc avec plusieurs collègues, on s'est rendu compte qu'on jouait, donc on a voulu jouer ensemble. On s'est donné un objectif un peu fou comme ça au départ, en disant tiens, si on faisait un concert à la Pitié. Et puis ça s'est fait. Il y a une chapelle très jolie qui se prête très bien à ça. Et donc, amis, collègues étaient invités, famille, et c'était vraiment un super moment.
Donc, vous êtes une bande de mélomanes à la Pitié-Salpêtrière, si je comprends bien.
Bon, on se retrouve, la Pitié-Salpêtrière, c'est gigantesque. Donc, parmi tout ça, il y a forcément des mélomanes. Et évidemment, au bout d'un moment, on se retrouve, on se rencontre, on se connaît, et on joue ensemble.
Et vous n'avez pas idée d'organiser dans cette petite chapelle un festival pour ou des temps de concert pour les patients? Il n'y a pas ce loisir-là?
Ça nous a donné des idées, effectivement, de faire des concerts régulièrement, mais ça peut être nous ou d'autres gens. Mais comme vous l'imaginez bien, depuis près d'un an, il est impossible de faire la moindre manifestation culturelle dans ces lieux ou en général.
Ouais, il vous reste les disques et les enregistrements et la radio?
Et la radio, bien sûr.
Est-ce que vous écoutez d'autres sortes de musique que la musique classique?
Oh oui, j'écoute beaucoup d'autres musiques, évidemment. J'écoute en particulier beaucoup de rock, rock garage, rock punk, des trucs qui n'ont effectivement rien à voir. De la musique pour s'oublier un peu, pour le coup, mais qui me procure au moins presque autant de plaisir.
Et comment vous passez de l'un à l'autre?
Ah mais sans aucun problème, vraiment, je peux passer de l'un à l'autre, intercaler une chanson punk entre un Schubert et un Liszt, vraiment, aucun souci avec ça. Pas de sacralisation de la musique, comment on l'écoute, vraiment, ça me dérange pas du tout.
C'est selon vos humeurs ou c'est justement ces contrastes-là qui vous intéressent?
Probablement un peu des deux. Selon les humeurs, c'est vrai que pour se concentrer, je peux pas écouter 4 heures d'affilée de rock. C'est pas l'idéal.
Qu'est-ce que vous écoutez comme rock?
Oh, je suis pas sûr que ça dira grand-chose aux auditeurs, mais si vous voulez découvrir des choses qui n'ont rien à voir, écoutez un groupe qui s'appelle les Fat White Families, qui est un groupe très amusant. Mais sinon, évidemment, j'écoute Pink Floyd et les Rolling Stones. D'ailleurs, je me souviens qu'un des types de Pink Floyd avait dit "Mais nous, si on avait connu Schubert, on n'aurait jamais fait de musique." C'est sous-entendu, quand on voit ce qui a pu se faire, on n'aurait même pas essayé de rivaliser, on aurait écouté Schubert toute notre vie et on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Je trouvais ça très, très marrant.
Ça vous met dans des états que vous qualifieriez comment? Ces différents registres-là.
Quand on écoute les Pink Floyd, c'est quand même des gens qui ont énormément bossé pour vraiment faire de la bonne musique. C'est très travaillé et ça peut me mettre dans les mêmes états que quand j'écoute de la musique classique. Vous avez des œuvres de Pink Floyd qui durent 10-15 minutes, extrêmement travaillées et magnifiques.
Mais vous avez, par exemple, vous me disiez, pour le travail au tout début de cette émission, vous préférez, quand vous cherchez un état de concentration, par exemple, écouter plutôt du piano classique?
Je pense que la différence, c'est la durée. Je ne vais pas écouter 4 heures de Pink Floyd, alors que j'ai aucun problème, quand j'ai une journée entière de bureau, à lancer sur mes enceintes le Ring. Et puis, je commence à l'heure du Rhin. Et quand la journée est finie, j'en suis au milieu de la Valkyrie. Donc ça ne me pose aucun problème d'écouter 6 ou 8 heures, au contraire, de musique classique. Je ne ferai pas ça avec les autres musiques. Thank you.
Jonathan Freund, vous nous avez parlé de votre répertoire un peu de piano, vous jouez du Schubert, est-ce que vous jouez aussi du Granados?
Non, c'est beaucoup trop difficile pour moi. C'est quelque chose que j'adore, je trouve ça magnifique, mais c'est impossible pour moi de jouer ça. J'ai pris la partition pour voir si... Non, c'est complètement impossible.
Vous aimez cette interprétation d'Alicia de la Rocha?
C'est l'interprétation gold standard, l'interprétation de référence, hein, on parle que de ça. Mais c'est vrai que moi, au départ, je l'écoutais par Jean-François Esser, que je trouve parfaite. Et quand j'écoute, alors juste pour Granados, hein, je précise, juste pour les Goyescas, quand j'écoute Alicia de la Rocha, je trouve par moments c'est un tout petit peu dur.
Qu'est-ce que vous recherchez dans l'interprétation de Jean-François Esser?
Pour moi, les Goyescas, c'est vraiment un moment de... C'est une rêverie merveilleuse. C'est un moment de détente, de relâchement. Quelque chose qui me fait vraiment penser à autre chose. Une distraction, comme on le disait tout à l'heure, mais une distraction de l'esprit, pas une distraction dans le sens banal du terme. Et c'est vrai que la version de Jean-François Esser est d'une douceur merveilleuse.
Vous nous avez suggéré, pour terminer cette émission, qu'on écoute ensemble la suite espagnole d'Albéniz. On va écouter la suite espagnole numéro 1. Je vous trouve quelques goûts pour les musiques espagnoles. D'où ça vous vient?
Bah, c'est assez récent, ça, pour le coup. C'est un hasard, parce que c'était pas spontanément mon répertoire. Par hasard, quelque chose entendu à la radio, comme quoi la radio, c'est merveilleux. C'était avant de prendre un avion, et moi, je suis extrêmement... peureux de l'avion, très angoissé. Pour moi, chaque vol en avion est un cauchemar. Et j'ai découvert ça par hasard en allant à l'aéroport. J'ai trouvé ça merveilleux. Je l'ai téléchargé tout de suite et je l'ai écouté dans l'avion. Et maintenant, je ne peux pas prendre l'avion sans écouter ces Goyescas.
C'est donc la musique du voyage pour vous?
Complètement.
Qu'est-ce qui vous angoisse dans l'avion?
Tout, absolument, c'est affreux. Comment vous pouvez croire qu'un truc aussi gros et lourd vole à 10 000 mètres de haut et ne pas avoir peur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne vous angoisse pas dans l'avion?
Est-ce qu'on n'est pas angoissé quand on arrive aux urgences et qu'on confie son corps à un médecin?
Si, on est le premier contact entre le patient et l'hôpital, parfois le premier contact avec la maladie, avec la révélation, le diagnostic. Donc effectivement, il faut prendre en compte toutes les angoisses des malades et toutes les discussions qu'on entend régulièrement sur les gens viennent aux urgences pour rien, etc. Moi, je m'y oppose un peu parce que les gens sont angoissés, bien sûr. C'est notre rôle de leur dire que ce n'est pas grave et pas urgent, mais je pense que c'est pleinement notre rôle.
Est-ce que vous avez peur de l'erreur professionnelle en avion, de la manière qu'il peut avoir des erreurs médicales?
Alors, je me suis beaucoup intéressé aux erreurs médicales dans mes recherches. Et effectivement, on prend régulièrement l'aviation civile ou en général l'aéronautique comme modèle. Et donc, je me suis aussi intéressé du point de vue côté pilote. Donc, j'ai pris des cours de pilotage. Ça avait double fonction. À la fois, ça m'intéressait, puis ça me permettait de surmonter ma peur de l'avion.
Et qu'est-ce que vous avez appris sur la gestion du risque?
Eh ben, le fait de tout protocoliser, d'avoir des checklists régulières, de faire attention à tout. Et les médecins et les pilotes, c'est pas pareil. Parce que déjà, les médecins, ils sont plus intelligents que tout le monde. Donc on n'a pas à leur demander des comptes pour faire le truc, on fait jamais d'erreur. Et puis accessoirement, le médecin, il n'est pas du même côté que le malade, alors que le pilote, il est du même côté que ses passagers. Donc si l'avion s'écrase, le pilote aussi.
Donc qu'est-ce qui peut être repris du protocole
Il y a une culture aérien. De l'erreur dans l'aéronautique, une culture de l'erreur et de la sécurité qui date de dizaines d'années, hein, depuis évidemment juste après la guerre. Et en médecine, c'est extrêmement récent ces concepts. C'est seulement il y a 20 ans qu'il y a eu les premiers rapports qui suggéraient que les erreurs médicales causaient des morts. Et ça fait quelques années à peine qu'on trouve des interventions pour essayer de les réduire.
Qu'est-ce qui peut se transposer entre les deux systèmes, entre les deux mondes?
Beaucoup de choses. Par exemple, le fait de demander à son collègue, même s'il est moins gradé, même s'il est moins expérimenté, de vérifier tout ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui n'existe pas du tout en médecine. Hein. En médecine, vous aviez les mandarins, les chefs, les internes, les étudiants. Et c'est exceptionnel que quelqu'un de plus gradé ou de plus expérimenté en médecine demande l'avis de quelqu'un en dessous ou la confirmation que ce qu'il fait est bien. Et ça se fait tout le temps dans l'aviation civile. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place chez nous.
Alors on va écouter un jeune mandarin de la guitare, Thibaut Covin, dans la première suite espagnola d'Albéniz, c'est Cuba. Thank you. Merci beaucoup, Jonathan Freund, d'avoir été l'invité de Musique et moi ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, les auditeurs de France Musique qui peuvent être amenés à s'adresser à vous pourront parler de musique avec vous et partager peut-être leur playlist idéale, voire vous suggérer une musique à écouter pendant une opération.
Avec plaisir, comme ça j'en découvrirai encore, on découvre toujours.
Merci beaucoup à Marie Le Peintre qui était à la technique ce matin, Cyril Weber à la réalisation, Marie-Ferdinand m'a aidé à préparer cette émission. À la semaine prochaine, passez un très bon dimanche sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.